fille.
Tradition africaine, voilà.
Nos traditions. Salut Rodia, comment ça
Salut
va?
Salut Aïssa. Bienvenue. Je vais très bien. Merci. Alors Aïssa.
On dit quoi aujourd'hui?
Aujourd'hui, alors on va voyager du côté du Sénégal au 15e siècle.
Wow. En fait,
entre 15e siècle jusqu'au 20e siècle.
Dans le temps et dans l'espace.
Exactement. Alors, nous allons parler des signards. Je ne sais pas si on connaît l'histoire des signards ou pas. Donc voilà, les signards, alors, ce sont des femmes métisses issues d'unions de Portugais avec des Sénégalaises. Et ces mêmes métisses ont continué, en fait, avant, ont continué de faire du concubinage ou bien ce qu'on appelle mariage à la mode du pays avec des Européens. Et c'était au temps des comptoirs, à partir du 15e siècle. À Saint-Louis, il y en a à Saint-Louis et à Gorée. Alors, le mot signard nous vient du mot portugais senhora, qui veut dire dame en français, tout simplement. Et au fil du temps, ces unions mixtes hein, ne représentaient que 15%. Et pour le reste, ce fut des mariages endogamiques, c'est-à-dire une fois que les métis se sont bien multipliés, en fait, hein, qu'il y a eu beaucoup de métis.
Ouais.
Vas-y, si tu...
Non, vas-y.
Donc, en fait, quand les métis peut-être représentaient 80% de leur groupe, et c'est là qu'ils ont commencé à faire ce qu'on appelle un mariage endogamique, c'est-à-dire ils ne se mariaient qu'entre eux, d'accord? Et ces unions mixtes, il y a d'autres personnes qui disent que certains étaient élitistes pour la simple raison que certaines de ces femmes, à la base, faisaient partie de l'aristocratie sénégalaise. Ce qui leur donnait le pouvoir de faire pression parfois même sur les gouverneurs, les officiers européens. Et d'autres femmes métissées aussi naissaient parfois du viol des esclaves. C'est-à-dire, comme par exemple, quand il y a une esclave, soit qui fait partie d'une maison ou bien qui attendait à la maison des esclaves pour se faire déporter, parfois il se trouvait qu'un des colons venait violer. Et si la femme accouche, en fait, tombe enceinte, ça peut la sauver pour qu'on la franchisse et qu'on la. Voilà, elle devient une concubine, je vais y arriver. Et. Elles étaient basées principalement dans deux des quatre communes du Sénégal, notamment le Saint-Louis, qui était la première capitale du Sénégal et qu'on appelle Ndar en Wolof, ou Ndar Gate même si vous voulez. Et puis il y a aussi Gorée, parce que les quatre communes, il y avait Dakar, Rufisque, Gorée. Et les autochtones qui habitaient dans ces zones étaient citoyens français. Donc nous, le bas peuple, nous qui habitons à l'intérieur du Sénégal, nous on était des indigènes.
Hein?
C'est pas juste ça, d'accord.
Les indigènes.
Alors, en fait, je te jure, c'était ça à l'époque. Alors, ces métisses, en fait, pourquoi elles avaient décidé de se marier qu'entre elles? En fait, c'était dans le but de préserver bien leur bien matériel accumulé depuis des générations et des générations. Ouais. Et au début, certains avaient fait des mariages d'affaires, des mariages d'affaires étaient conclus entre un chef de village ou bien un roi avec un riche commerçant européen, voilà, pour que l'argent reste peut-être dans le pays. Et d'autres étaient aussi gouvernantes donc des colons.
Oui.
Bah, après, ça s'est terminé par un concubinage ou bien par un mariage à la mode du pays. Alors, les colons, ce qu'il faut savoir aussi, ce qui a accentué ça, c'est que les colons, à cette époque, n'avaient pas le droit de venir avec leur famille dans les colonies. Parce qu'ils voulaient éviter les risques sanitaires, notamment les maladies.
Et
puis la chaleur, le paludisme, la choléra, tu vois, fièvre jaune et j'en passe. Et donc, du coup, bah, comme on est tous des humains, des hommes qui restent sur place pendant des années et des années et qu'on trouve des belles femmes, alors là, tu vois, le mélange va se faire tout de suite. Alors, d'ailleurs, ces concubinages, en fait, le mot concubinage, quand on le dit sur l'histoire des signards, ça veut dire mariage à la mode du pays. Et ça veut dire tout simplement que quand l'officier arrive, bah, il va prendre une femme sénégalaise. Et puis, quand il doit partir, quand il doit rentrer en France, il laisse tous ses biens à la femme et à ses enfants. Et parfois, apparemment, il arrivait que la même femme épouse 4, 5 officiers qui ont occupé le même poste, tu vois. Oui, ça existe.
On l'ex, ok, d'accord. Bon.
C'était des mariages d'intérêt. Hein, c'était bien des mariages d'intérêt. Et en fait, tu vois, les métis, elles représentaient, disons, une culture entre, comment on appelle ça, une civilisation intermédiaire entre la civilisation européenne. Sénégalaise ou africaine, ouais. Et la civilisation européenne. Et elles avaient installé un système qu'on appelle le système matriarcat, où c'est les femmes qui dirigeaient. Tout
d'accord.
Simplement. Ouais. Et d'ailleurs, c'était des femmes d'affaires redoutables, apparemment, en affaires. Alors, ils étaient capables même de faire pression sur les gouverneurs ou même sur les officiers, tellement elles avaient le pouvoir, elles étaient puissantes. Hein. Leur processus d'accumulation de biens par le mariage développa aussi d'autres types de business, notamment le commerce de la contrebande, le commerce de la gomme arabique,
ouais.
Le commerce de l'or, de tissu et... voilà, mais aussi elles ont aussi d'une part utilisé les captifs, ce qu'on appelait les captifs, parce que quand on dit captif, c'est juste esclave, mais sauf que ce que l'Occident appelle esclave et ce qu'on appelle nous captifs, c'est pas pareil parce que c'est pas les mêmes traitements qu'on leur donnait, tu vois. Alors au milieu du 19e siècle, les métis ou signards occupaient finalement le pouvoir économique, le pouvoir politique, et elles ont laissé l'administration aux colons français. Et sans oublier aussi leur culture métissée, mi-sénégalaise, mi-européenne, et qui avait beaucoup marqué des Sénégalaises, parce que ma grand-mère, qui a, en fait, elle a grandi entre guillemets à Saint-Louis.
Ouais.
Elle me racontait, elle me dit, en fait, et pourtant à cette époque, il n'y avait plus vraiment de signards, mais ils ont continué ce qu'on appelait le fanal et tout. C'était une sorte de festival. Elle me disait, tu vois, les femmes. Super bien habillées. En fait, elles étaient réputées.
Elles avaient de l'allure, beauté. Avec des tenues assez spéciales, un mélange de
magnifiques femmes, ouais, avec vrai. Élégance, coquetterie.
Ouais.
Voilà, parées de bijoux de la tête aux pieds. Avec, en fait, elles étaient toujours accompagnées apparemment avec leurs dames de compagnie et les griots qui chantaient et tout. Et
avec
en fait,
leurs ombrelles et tout.
Voilà. Et il y avait d'ailleurs jusqu'à présent, quand on va en Saint-Louis, en fait, les Sénégalais disent Takusa Nundar. Ndar, c'est Saint-Louis, je disais. Takusan, c'est, je veux dire, en fait, juste après 17h, 18h, la promenade des signards qui laissait personne indifférente. Tu vas dans les rues de Saint-Louis, même dans les rues de Gorée, hein, on les voyait. Et franchement, donc du coup, apparemment, les Européens, ils craquaient tout de suite. Et elle soutirait l'argent.
Donc, ça a toujours existé. Hein.
Ouais. D'ailleurs, en fait, elles sont. Comment on les reconnaît tout de suite sur les photos? Elles avaient une coiffe,
ouais.
Tu vois, un foulard sous forme de cône, très, très long et fin, et très magnifique, toujours avec une éventail en train de. Parce qu'il faisait chaud au Sénégal, en Afrique. Donc, une des plus célèbres qui s'appelle Anne Pépin, elle fut la maîtresse du chevalier gouverneur Stanislas de Boufflers, marquis de Romainquière. Il y a aussi sa nièce qui s'appelle Anne Colas Pépin qui a reçu apparemment le fils du roi de France à l'époque du nom de Louis-Philippe Ier à Gorée. Et je crois que Anne Pépin, son grand frère ou son petit frère qui s'appelle Nicolas Pépin, c'est lui qui a construit la maison des esclaves de Gorée.
D'accord.
Et je sais pas, je suis pas sûre, mais je vais vérifier. J'ai l'impression qu'en fait, la maison des esclaves, avant d'être une maison des esclaves, ça a été une maison de signards tout simplement. Parce qu'en fait, pour la simple raison, les deux escaliers, tu vois, c'est inspiré de l'architecture européenne, notamment Italie et France. Et en fait, quand on va au Saint-Louis ou bien à Gorée ou bien même parfois dans les quatre communes, il y avait des traces, tu vois, de ce type de maison que les signards construisaient. Alors, on dit aussi que leur maison était des lieux de réjouissance, de distraction. Hein, elles organisaient ce qu'on appelait...
Elles buvaient du thé.
Elles font du thé, des mbakhal, des darin. Alors, elles organisent ce qu'on appelait mbotaï. Mbotaï, en fait, moi, comment je peux t'expliquer mbotaï? C'est, disons, c'est une rencontre... chaque mois, il y a un groupe de femmes, tu vois, de même statut social.
Comme les tantines, quoi.
Oui, comme les tantines qui se rencontrent. Oui, parfois, ça peut... En fait, il y aura peut-être... tu vois, comment on appelle ça? Un tapeur, un batteur de tam-tam qui viendra avec le tama pour animer la scène. Et puis voilà, ça mange. Et puis ça discute aussi business, parce que c'est pas seulement juste pour s'amuser. Donc, tu vois, toujours l'aspect économique, l'aspect de femme d'affaires revient toujours sur les signards. Alors, les signards, il faut savoir qu'elles n'épousaient jamais une personne ordinaire. Soit c'était des cadres bourgeois. Ou bien ceux qui faisaient partie de l'aristocratie française. Alors, c'est fini?
Oui.
Ok, bah, chers auditeurs, si vous êtes intéressés au sujet, allez regarder sur YouTube ou bien sur Google. Vous pourrez trouver plein d'articles qui parlent des signards.
Merci beaucoup.
Merci à ça.
À la semaine prochaine. Tradition africaine. Tradition africaine. Voilà. Nos traditions.